La guérison des maladies, quatrième fichier. Chapitre 10. Tout de suite, il parut sur la figure de Marie des taches rouges. C'était comme si ses lèvres eussent été brûlées par le baiser qu'elles avaient donné. Ce matin-là, on vit Madame Grain sortir en courant de chez elle. En un rien de temps, elle fut au bout de la rue. On l'appelait, elle ne répondait pas. Elle prit ce premier tournant, ce second. Où peut-elle bien aller, la pauvre? Mais on sait assez ce que c'est, nous autres, et que, quand la douleur est trop forte, on se sauve comme un cheval qui a des mouches. Tous ceux qui voulurent donc venir ce matin-là purent venir, et ceux qui vinrent d'abord, ils vinrent pour se moquer. Il y eut aussi ceux-là qui disaient « Il faut profiter, on va rire !» C'est ceux qui ne croyaient à rien. Paulier, le commissionnaire, disait « Moi, je vais lui demander de me guérir de l'habitude que j'ai de chiquer, parce que ça me fait du tort auprès de la clientèle. » Le nommé Constançon « Passe-moi ton mouchoir, je vais me l'enrouler autour de la main, je lui dirai que j'ai une veine éclatée, on verra si elle s'y laisse prendre. » Ils se mirent en route pour leur expédition, comme ils disaient. Ils étaient une demi-douzaine. Ils faisaient tant de bruit et ils riaient tellement fort que la propriétaire, les entendant monter, avait ouvert sa porte. Et quand elle connut de qui il s'agissait, elle voulut les empêcher de passer. Mais Paulier la prit par la taille. « Doucement, disait-il, doucement, vous voyez bien qu'on est aimable, tâchez de l'être aussi. » Et tandis qu'elle se débattait et que Paulier continuait à lui débiter des galanteries, les autres passaient sans se presser. C'était encore plus amusant qu'ils n'auraient cru. Leur première surprise fut de ne pas trouver Marie seule, comme ils avaient pensé que ce serait le cas. À peine étaient-ils arrivés sur le palier, toutes les portes étant restées ouvertes, qu'ils comprirent qu'ils s'étaient trompés. Madame de l'église était installée à côté du lit. Dans le fond de la chambre, assise sagement sur des chaises, il y avait deux petites filles. Et tout était si calme dans la chambre, tout avait tellement l'air de ne pouvoir être autrement, qu'ils hésitèrent à entrer. La propriétaire, derrière sa porte, avait beau maintenant prêter l'oreille. On n'entendait plus rien. Quand ils redescendirent, à peine si elle s'en douta. Elle n'en eut pas moins le temps d'entrebâiller sa porte. Elle vit qu'il marchait sur la pointe des pieds. Constançon n'avait plus son mouchoir autour de la main. Paulier hochait la tête. Et le scandale, à cet endroit, ne fut pas tel qu'on aurait pu le craindre. Le vrai eut lieu sur la place du port, où Grain venait d'arriver. C'était sur la place du port, vers les 9 heures du matin, et où il y avait la population de ces heures-là, c'est-à-dire des petits-enfants, les grands étant à l'école, des vieux et des vieilles assis sur les bancs, et plus loin, sur la grève, des femmes qui faisaient la lessive. Deux, à genoux dans une seille, frottaient, d'autres rinçaient le linge. Comme le lac était agité, elles avaient assez de mal. Ces chemises et ces draps, une fois savonnés, on les jette simplement à l'eau, et c'est le mouvement de l'eau qui est chargé de faire le nécessaire. Mais les chemises et les draps, ce jour-là, étaient aussitôt entraînés par le retirement de la vague. Il fallait tout le temps se veiller, comme on dit. Alors on voyait les femmes courir, levant en l'air leurs longues perches qu'elles projetaient en avant d'un mouvement de tout le corps. Encore du soleil, mais il ne va pas durer longtemps. C'est le vent qui a pris le dessus pendant la nuit. En haut des grands vieux ormes ronds, des nuages passaient très vite, comme une débandade de jupons blancs. Le claquement des vagues contre l'enrochement, à ce moment, a redoublé. Elle n'était pas de grosseur égale, et elle ne venait pas non plus à intervalles réguliers. Il y en avait trois plus petites, une plus grosse, celle-ci étant annoncée par un court arrêt, une courte trêve, après quoi elle s'élançait. Les femmes de la lessive virent qu'elles n'avaient plus qu'à plier bagage. Déjà une serviette venait de leur échapper. Celle à qui elle appartenait poussa un cri, se précipita. Elle arriva trop tard. Et elle se désolait. mais les autres riaient, et des hommes accourus riaient, se montrant une chose blanche, déjà plus qu'à demi noyée, qui fuyait en roulant dans la direction opposée à celle des paquets d'eau verte. Le vent, étant encore descendu, s'était mis à souffler à ras du sol. Une rafale vint, soulevant un nuage de sable fin et de poussière, parmi quoi s'envolaient des lambeaux de journaux. Les arbres, attaqués du côté qu'ils penchaient, eurent une tendance à se redresser, puis retombèrent. Grain, du plat de la main, renfonça son chapeau. « Que tous ceux qui veulent venir, viennent !» Comme il parlait très haut, on l'entendait de loin. Il bougeait les bras au-dessus de sa tête. Même qui n'eût été au courant de rien l'eût remarqué. Cet homme maigre, petit de taille, la veste décousue, les poches déchirées, les ailes de son chapeau lui pendant sur les yeux, la barbe en broussailles sur ses joues creuses, et qui faisait des gestes tout en parlant très haut, attirait l'attention. Il s'était trouvé qu'on était venu, et on continuait de venir. Venaient des femmes avec leurs tricots, des vieux et des vieilles restés assis jusqu'alors sur les bancs et que le vent avait chassés, des enfants aussi, de simples passants. Ainsi, un cercle s'était formé autour de Grain, au milieu duquel était Grain, et au milieu de ce cercle, Grain parlait. Toujours à peu près ces mêmes discours. Le vent prenait les paroles sur sa bouche, comme il prend la graine en haut de la plante. Quelquefois on ne comprenait plus, mais déjà de nouvelles paroles venaient, et tout le temps, ainsi, une graine nouvelle était jetée au vent. « Venez, disait-il, et puis vous verrez, c'est que tout est bien. Moi aussi il m'a fallu du temps pour comprendre, mais il n'y a qu'à en prendre la peine, et on est récompensé. Elle s'est donnée pour vous et pour moi. Pour moi d'abord, pour vous ensuite. Le pauvre ami que je n'ai plus avait bien raison de dire « Tout ce qu'elle a fait est bien fait. » Il avait compris le premier, et elle l'a sacrifié, mais elle s'est sacrifiée. Alors maintenant, venez seulement, parce qu'il y a une vertu en elle. Elle ôte vos maux de dessus vous. Vous savez, comme quand on monte le mot, et le poids de la hotte vous fait mal au dos, mais elle vous prend votre hotte. Et voilà, vous pensez « c'est bon ». Et il y a le bon air qui vient, et vous pensez « ça fait frais ». Et elle, vous la regardez, parce que vous êtes inquiet. Pas besoin d'être inquiet. Plus elle est chargée, plus elle est légère. Plus la hotte devient lourde, moins elle a de la peine à la porter. C'était tout un discours, comme on voit. Alors quelques-uns secouaient la tête, d'autres haussaient les épaules. Mais plusieurs restaient sans un mouvement, comme s'ils n'avaient pas trop de toute leur force pour écouter. Les grands ormes étaient beaux à voir. Leur feuillage se gonflait comme de la crème qu'on fouette. Les nuages au ciel semblaient aller plus vite. Et la voix de Grain dans le vent. « Serrez-vous seulement autour de moi, que je vous explique. Et puis tous ceux qui voudront venir, viendront. » Mais tout à coup, quelqu'un « Mais je ne sais pas à quoi vous pensez !» C'était le notaire Boll qui s'était trouvé passé par là, et sa conscience d'honnête homme, comme il le disait lui-même plus tard, l'avait obligé à intervenir. « Monsieur, je vous salue !» dit Grain en soulevant son chapeau. « Mais je ne vous écoute pas. » Le notaire « C'est du désordre !» Grain « C'est l'ordre nouveau !» Parce qu'on devinait que les choses allaient se gâter, beaucoup de gens étaient encore accourus. Tout de suite, ils formèrent deux parties. « L'ordre nouveau ?» dit le notaire. « Le vôtre, peut-être. En ce cas, permettez-moi de préférer l'ancien. » Le banquier Guicherat, à ce moment, parut, et tout de suite, il vint au secours du notaire. « D'ailleurs, il y a la police, monsieur Boll, pour faire respecter les lois. » Déjà, on s'échauffait, comme on voit, mais M. Boll était un brave homme et de sens rassis. Quand il avait raison, c'était pour des raisons. « Permettez, » reprit-il. Il fit un ou deux pas dans la direction de Grain. et, tendant le bras à demi, la paume de la main tournée en haut, comme pour vous mieux présenter la chose, « Tenez !» Et se fut offert sur la main. « Causons tranquillement. Qui est-ce qui a commencé ? Avez-vous à vous plaindre de quelqu'un ? Pourtant, c'est à cause de vous que depuis longtemps on n'est pas tranquille. Et vous dites que notre genre de vie ne vous plaît pas. Peut-être bien, mais dans ce cas, le bon parti ne serait-il pas que vous alliez en chercher ailleurs un qui vous convienne mieux, plutôt que de vouloir nous obliger à changer le nôtre ? Au lieu de quoi, vous mettez tous en dessus-dessous, vous dérangez tout le monde. Un qui se noie, une de ces créatures, on ne les nommera pas, ça vaut mieux, amenez chez vous par vous-même, votre fille qui est malade, votre femme qui n'en peut plus. Voyons, grain, dites-moi un peu, trouvez-vous que tout aille si bien que vous le dites ? Il parlait posément. Il était, comme on voit, parfaitement raisonnable. Monsieur Guicherat, lui, fut plus violent. « C'est encore plus simple que ça. Les lois sont les lois, et il y en a une qui contient certaines dispositions concernant l'exercice illégal de la médecine, que je rappelle plus particulièrement à votre mémoire. Grain, faites attention à vous, c'est un dernier avertissement. » Il faisait allusion à des bruits qui couraient, d'après lesquels les gens ne seraient pas venus chez Grain les mains vides. Si on n'osait pas encore parler d'argent, on assurait du moins que le ménage ne se tirait d'affaire que grâce aux provisions dont on le fournissait. De là venait le sourire entendu qu'avaient bien des personnes quand elles parlaient de Grain. Il n'est pas si fou qu'on veut bien le dire. Grain resta pourtant parfaitement calme. Il laissa finir M. Guicherat. Puis, levant la main, « Vous parlez sous le pont, moi je suis dessus. » Cela fut dit, et il regardait autour de lui, tandis qu'un nouveau coup de vent courbait les têtes. « Sur le pont, et dans le soleil, vous dans l'ombre. » Et voilà qu'à présent plusieurs des hommes qui étaient là l'approuvaient ouvertement. Mais quelqu'un arrivait encore. « Vous ne savez pas tout, sa femme s'est sauvée. » C'est grand ouvert chez lui, on entre et on sort comme on veut, et c'est plein de gens qui font du tapage. » Grain se mit à sourire. « Tant mieux !» Et comme il avait dit déjà, « Que tous ceux qui veulent entrer, entrent, que ceux qui veulent rester dehors, restent dehors. Ainsi vous serez triés et choisis. » « Tu dis juste, » répondit Descoster. « On sera triés et choisis. » Et se tournant vers M. Boll et M. Guicherat, « Quant à vous, allez-vous-en, on vous a assez vu. » La chose tournait tout autrement qu'on aurait imaginé. Les femmes avaient d'abord continué de tricoter. Leurs mains maintenant s'étaient arrêtées. Les petits-enfants étaient là, n'ayant pas lâché leurs seaux, leurs cerceaux. Il y avait là aussi Bolomé, les deux frères Pidou, toute la coterie. Est-ce ce qui fit pencher la balance ? Et puis c'était peut-être aussi ce grand vent qui venait toujours et vous attaquait de côté. On chancelait dedans, on ne savait plus bien. C'est ainsi que, quand M. Guicherat voulut s'avancer de nouveau, Descoster le prit par le bras. « Laissez-nous tranquille, on vous dit, sans quoi ?» C'était pourtant, ce Descoster, un homme d'humeur plutôt arrangeante, comme son métier le forçait à être, et qui ne s'emballait guère d'habitude. Il fallait qu'il eût ses raisons pour agir comme il faisait. Et tout de suite, son exemple fut imité par les deux Pidou et Bolomé, qui vinrent se placer à côté de lui. Monsieur Guicherat comprit qu'il ne serait pas le plus fort. « Venez, monsieur Boll, » dit-il, « nous verrons plus tard qui aura raison. » Et ils s'en allèrent de compagnie, suivi de Duport. Grain, comme si rien ne s'était passé, s'était déjà remis à son discours. Il bougeait des fleurs de géranium sur l'appui des petites fenêtres percées dans l'épaisseur des vieilles façades grises qui bordaient la place. Au rez-de-chaussée sont des cafés, sont des boutiques ou encore des ateliers, comme celui du maréchal et celui du petit entrepreneur tessinois qui faisait tourner entre ses mains un gros pinceau dans un pot d'essence minérale.
Est-ce que ça va être la pluie?
Un peu de pluie ferait du bien. Mais il est à craindre que quand elle se mettra à tomber, elle n'abîme et ne ravine tout. Oh, comme la mesure en toute chose est difficile, et comme il est rare qu'on ait juste ce qu'il vous faudrait, à savoir ni trop ni trop peu. Madame Grain alla longtemps encore. À un moment donné, elle fut arrêtée. Elle comprit qu'on lui parlait. Elle ne reconnut pourtant pas tout de suite qui lui parlait. Puis elle a vu qu'elle avait suivi la route jusqu'à l'endroit où celle-ci coupe la voie ferrée, et la barrière était baissée, et la garde-barrière se tenait devant avec son drapeau.
« Où allez-vous comme ça ?»
Mais la garde-barrière fut interrompue par un train. Elle souffla dans son cornet de cuivre comme une gardeuse de chèvre. L'immense machine passa. Et longtemps après qu'elle eut disparu, suivie de la longue queue des wagons avec plein de monde aux portières, la haute pente du mont, creusée en conque par le golfe, continua à retentir d'une sourde rumeur sans cause, comme quand on s'applique un coquillage contre l'oreille. Tranquillement, la garde-barrière fit alors tourner sa manivelle, posa son drapeau contre un mur, puis se retournant.
« Ma pauvre dame, qu'avez-vous ? »
Elle la voyait toute blanche et qui tremblait de tout son corps. Elle la fit entrer dans sa cuisine. Elle crut bien un moment que la pauvre Madame Grain allait s'évanouir. Aussi lui fit-elle avaler de force un peu d'eau sucrée, l'ayant assise sur une chaise. C'est de ces cuisines de 6 pieds sur 6 où il faut déjà bien de l'adresse pour arriver seulement à loger les ustensiles dont on a le plus besoin. À part quoi, c'est tout juste s'il y a place pour une petite table et 2 ou 3 tabourets. Madame Grain resta un bon moment sans bouger. Puis elle soupira et les couleurs lui revinrent. La première chose alors qu'elle fit fut de porter la main à sa tête par une vague inquiétude. Elle s'aperçut qu'elle était sans chapeau. Elle n'eut pas besoin ensuite de se baisser beaucoup pour voir qu'elle avait gardé son tablier. Elle dit « Je vous demande pardon ». Elle ne trouva rien d'autre à dire. Elle regardait fixement sur le carreau bien frotté ses souliers blancs de poussière.
« Me demander pardon, ma pauvre dame, comme si je ne vous comprenais pas. Mais consolez-vous. « Moi aussi, mon mari, je l'ai perdu au bon moment. Soufflez seulement un peu. Encore un verre d'eau sucrée ?»
Madame Grain secoua la tête, et l'autre, « Il m'a laissé sans un centime, ayant bu tout ce que j'avais. Il m'a fallu prendre cette place, bien heureuse encore de l'avoir trouvée. Quand même, on doit se relever 3 ou 4 fois la nuit. Et vous savez, pour ce qu'on gagne... « Mais voyez-vous, avec les hommes, c'est toujours nous qu'on est sacrifiés. Parce que, quand on les aime, on fait tout ce qu'ils veulent. Et quand on ne les aime pas, ils sont quand même les plus forts. » Elle criait presque à présent. Elle mit ses poings sur ses hanches. Ses grosses joues, violettes du bas, tombaient sur le col de son corsage en flanelle coton. C'était une flanelle coton grisâtre, à larges rayures noires. Son ventre s'avançait sous son tablier de couleur. Elle dut sortir de nouveau pour un train de marchandises. Ce train de marchandises n'allait pas si vite que celui d'avant. Quelques-uns des wagons étaient des wagons plats qui sautillaient comme un cheval au trot. Les autres, noirs et carrés, glissaient sur les rails en silence. Enfin, la garde-barrière rentra. Sa colère n'était toujours pas tombée. « Ma bonne dame, voyez-vous, il s'agirait de se défendre. C'est bien notre faute, souvent, si on est traité comme on l'est. Il faut faire peur, on ne fait pas peur. Et moi, à votre place, oh, je ne vous demande rien, mais enfin, je devine bien ce qui vous arrive. Eh bien, à votre place, je m'adresserai aux autorités. » Madame Grain la regardait. « Vous avez le bon droit pour vous, seulement il s'agit de le faire valoir. » « Personne, voyez-vous, ne viendra vous offrir ses services. » Droit au-dessous de la petite maison, d'énormes vagues venaient heurter l'empilement des rocs.
comme des bouteilles lancées à toute volée, ainsi venaient continuellement ces rouleaux d'eau verte, faisant entendre un bruit de verre brisé. Mais ensuite, une chevelure blanche était dénouée, se retirant peu à peu de chaque vide, chaque fissure, chaque crevasse. Alors on pensait, par une autre image, à un corps de femme aux cheveux flottants. Madame Grain s'en retournait. Madame Grain marchait très vite. Une automobile jaune prit le contour. Il se trouva heureusement que le docteur Augsbourg était chez lui. D'abord, il n'avait pas voulu venir, étant déjà venu dans les commencements, et on ne l'avait pas rappelé. Mais elle le suppliait, elle lui faisait des excuses. « Je la croyais guérie, voyez-vous, monsieur le docteur. Et ce qui s'est passé ensuite, je vous assure que ne n'y suis pour rien. On n'est pas toujours maîtresse chez soi. C'est mon mari, comprenez-vous ? Ah, mon Dieu, monsieur le docteur, si vous saviez comme je suis malheureuse !» Il mit son chapeau, qui était un chapeau d'étoffe à petits carreaux blancs et noirs. Il avait la figure ronde, rouge, une moustache blanche et bourriffée, les cheveux blancs et frisés. C'était un vieux garçon d'allures indépendantes et pas toujours commode, disait-on. En effet, quand il vit que la chambre était pleine de monde, il refusa d'entrer. On avait profité de la porte ouverte. Il n'y avait plus seulement Madame de l'Église et les deux petites filles. Plusieurs autres femmes étaient là, dont Jeanne Cavin et Mélanie Roy, mais elles n'avaient pas pu s'asseoir toutes. Il fallut qu'elles sortissent d'abord, qui ne firent d'ailleurs pas de difficulté. Alors seulement le docteur Augsbourg consentit à examiner la malade, ayant assujetti de la main gauche son lorgnon. Elle n'avait rien dit du tout, lui non plus. La même douceur que toujours et la même tranquillité étaient écrites sur cette petite figure, où durait aussi ce sourire qui ne voulait plus finir. Mais put-il en lire le sens, parce qu'il ne venait qu'avec son intelligence? Il prit le poignet de Marie, il fronça les sourcils. « Que ressentez-vous ? » « Rien. » « Où avez-vous mal ?»« Nulle part. » Il haussa les épaules. Il dit à Madame Grain, « Je ne vois pas très bien pourquoi vous m'avez appelé. Du reste, si j'en crois la rumeur publique... » Il sortait. Madame Grain lui courut après, mais il ne voulut rien entendre. « Oh, Marie, est-ce pour me faire de la peine ? Marie, je n'aurais pas cru. » Puis de nouveau, « Marie, tout ce que j'ai déjà souffert à cause de toi, n'auras-tu pas pitié une fois, dis ? Moi qui t'aime ? Mais non, c'est exprès que tu me tourmentes, sans quoi tu m'aurais écouté déjà. » Il y a que chacun doit suivre son chemin, un chemin qu'on n'a pas choisi, et on ne sait même pas où il nous mène. Mais elle, ce fut ce sourire encore, cet éternel silence, cette immobilité. Et l'autre, alors, tout à côté, et en même temps si loin d'elle, toute proche par le sang, et en négation pourtant à ce sang, elle se désespérait avec des reproches. Longuement encore, elle se désespéra. Puis elle se tut, parce que des pas se faisaient entendre, et une voix aussi se faisait entendre. « Ne vous sentez-vous pas mieux déjà ? C'est comme le bon air, ça agit à distance. Il y en a qu'on mène à la montagne. Vous, c'est sur une autre espèce de montagne que je vous mène, parce que c'est au-dedans de soi qu'il faut monter. » Elle avait traversé en courant la cuisine. Elle avait été se cacher dans l'angle noir qu'il y avait entre le fourneau et le mur. Chapitre 11. Vers ce temps, on commença à venir de plus loin. Et c'est de derrière le mont qu'on a commencé à venir. Là, un autre pays commence. Ils n'ont point de vin dans ce pays, seulement ils y ont ce qu'on n'a pas dans le vignoble, c'est-à-dire les œufs, le beurre, les fruits, les légumes, le bois, qu'ils descendent vendre à la ville. Il y eut, pour ceux qui voulurent l'occasion ou le prétexte, des marchés. Chaque semaine, maintenant, ils descendaient en plus grand nombre. Pas seulement, maintenant, ceux qui avaient des choses à vendre, pas seulement les bien portants. Une petite fille avait la jambe prise dans une mécanique en fer. Beaucoup ne marchaient qu'avec peine, et pour ceux-ci, le voyage était un assez long voyage. Mais ils se levaient de bonne heure. D'abord, ils allaient presque à plat. Longtemps, ils cheminaient parmi les prés gris de rosée. Il faisait frais encore. Il faisait une lumière tranquille. Il y avait encore sur tout le ciel une peau comme sur le lait. C'est seulement quand ils étaient arrivés au bas de la dernière montée avant la crête que cette vive flamme blanche se mettait à bouger tout à coup dans le ciel. Ils n'avaient plus alors que quelques pas à faire. Et il semble qu'on ne va pas pouvoir pousser plus loin. La pente devant vous devient tout de suite tellement raide qu'on est comme pendu en l'air. Tout l'espace, en une seule fois, monte du fond de son trou, vous sautant contre. D'abord, on ne ressent qu'une impression de profondeur, et le choc fait qu'on recule. Puis peu à peu, l'étendue se construit, elle se peuple, elle s'organise, les choses de tous côtés se montrent, elles sont là partout dans leur beauté. Et on vient de très loin admirer cette vue, parce qu'il y a encore dans le bas tout le lac, toute l'immensité du lac, et il est ridé, crevassé, taché, de toutes les couleurs. Il est d'une seule couleur et transparent comme du verre, tellement transparent parfois qu'il semble qu'il n'y a plus de lac, et c'est comme si par le trou percé là, on apercevait l'autre ciel. Le ciel qui règne de nouveau sur l'autre face de la terre. Mais ceux qui venaient ne regardaient pas, et ils ne faisaient attention à rien. Un court instant d'arrêt pour reconnaître leur chemin, et déjà ils dégringolaient les sentiers. Changer de climat, changer de lumière, changer de qualité de jour et de soleil, et comme si rien pour eux n'avait changé. On entendait « Est-ce vrai que ça ne coûte rien ?» Pas un centime. C'est qu'on disait la même chose du rabilleur du Corcel. Eh bien, moi, il m'a demandé 2 francs. Qu'est-ce que vous avez? Oh, c'est toujours ce genou. Il paraît que le petit os s'est mis en travers du gros. Au lieu de céder, il s'empêche. 2 vieux en blouse, dont l'un fumait une courte pipe de terre à couvercle de laiton, et l'autre, en effet, ne pouvait plus plier la jambe. À cause de quoi il s'appuyait sur un bâton d'épine dont la lanière de cuir était passée autour de son poignet. Celui à la pipe cracha. Et l'autre, « Il m'a bien donné !» parlant toujours du rabilleur à qui il semblait en vouloir. « Il m'a bien donné une pommade, mais autant aurait servi de me frictionner avec un caillou, ce voleur !» Alors, ayant été attrapé une fois déjà avec mes 2 francs, vous comprenez... « Oh, mais vous ne risquez rien !» reprenait l'autre. « C'est bien ce qu'on m'a dit. » Il parut rassuré. Mais voilà qu'à présent, un petit enfant pleurait. Les hommes se retournèrent. Une femme venait derrière eux, tenant dans ses bras une espèce de gros paquet rose. Elle était petite, maigre, toute noire. Les cheveux, les yeux, la peau, et elle devait avoir été bien jolie, mais elle s'était trouvée usée avant le temps. Elle s'était assise sur un bout de route et tantôt elle approchait le paquet rose de sa joue, tantôt avec un mouvement très doux, elle le berçait. L'enfant ne se taisait pourtant pas. Alors elle se mit à le détortiller de ses langes, l'ayant posé sur ses genoux. Alors on vit sortir des langes une pauvre petite chose jaune qui bougeait, qui se débattait. Pauvre! Qu'est-ce qu'il peut bien avoir qu'il se désole ainsi tout le temps? J'ai eu beau faire, j'ai eu beau tout essayer. J'ai pensé que peut-être c'est l'ange le gênait. Voilà qu'il est tout nu, il crie plus fort qu'avant. Il ne digère plus, il vomit tout ce qu'on lui donne. Pauvre petit, il doit être bien malade. Mais l'idée que peut-être il allait guérir, pourquoi elle venait, lui rentra à ce même moment dans la tête. Et elle s'agitait maintenant dans son impatience, s'étant mise à courir, et eut bientôt dépassé les 2 à homme. Alors, les cris décrurent peu à peu. Et il y eut les 2 hommes, puis elle, mais il y avait encore bien d'autres arrivants. À tout moment, de nouveaux groupes apparaissaient au-dessus du grand mur qui supporte la route, ou bien descendaient les sentiers. Voilà que le raisin prenait de la grosseur et de la rondeur. Bientôt, il allait traluire. C'est quand il devient transparent, et la lumière, en passant au travers, prend une belle couleur. Et cet autre qui venait. Comment est-ce qu'il est? Gros, petit, serré, pas serré? Moyen, plutôt, qu'on lui disait. Mais il a bien bonne façon. Il soupira de nouveau. Il secoua la tête. Ce n'est quand même pas la même chose que de voir... Oh, je vous remercie bien, disait-il. Mais vous m'expliqueriez toujours comment c'est, que ça ne remplacerait pas pour moi le vieux temps, quand on n'avait qu'à aller faire un petit tour, voir les hauts, voir les bas. Il venait, lui, des hauts. Il était déjà vieux. Le fils d'un de ses voisins le tenait par une main, un autre jeune garçon par l'autre. Il sentait la chaleur du soleil lui arriver contre la figure, et elle le faisait penser plus encore au vieux temps où il en voyait la couleur. Il tâchait alors de se rappeler au-dedans de lui comment c'était. Il ne pouvait déjà plus bien. Mais cette ardeur contre sa peau était pourtant toujours la même, qu'il avait connue pendant 50 ans, tandis qu'il taillait ou qu'il sulfatait, ou encore qu'il portait la hotte. Tous ces longs 50 étés et 50 automnes, longs et courts, longs quand on les vivait, courts parce qu'ils étaient passés, car à présent, il n'y avait plus pour lui ni été, ni automne, ni printemps, ni hiver. L'année entière n'était plus pour lui qu'une grande nuit. D'où ses soupirs, d'où ses questions, tâchant de se renseigner et de s'intéresser quand même aux choses. Mais il faut dire que les mots ne sont rien, et peut-être qu'il est plus dur encore de savoir à peu près que de ne savoir pas du tout. Il s'était tu, et lui aussi se mettait à aller plus vite, impatient de la guérison. Mais il ne pouvait pas aller comme il voulait, n'étant plus son maître. « Attention !» disaient les garçons, et les garçons le retenaient. Et il fallait qu'il se résignât à se plier à leur allure, parce qu'il était redevenu comme un tout petit enfant, ne sachant même plus la direction qu'on avait prise, renseigné seulement par le pointu et le rond sous son pied. Le sol, certaines fois à plat, certaines autres fois en pente. Et ce fut un premier mercredi, ainsi, puis un deuxième, puis un troisième. Il venait toujours plus de monde. Assis au pied d'un canon à grêle, du côté où le petit cube de bois qui le supporte jetait son ombre, les hommes, en train de boire leur piquette, regardaient le monde passer. Dans la ville, les marchands sortaient sur le seuil de leurs boutiques. Les 2 vieilles cardeuses de matelas cardaient toujours leurs matelas sur la place, elles regardaient. La justice sur sa fontaine regardait. Là où il n'y avait personne aux fenêtres, les fenêtres regardaient. Et les corbeilles, cependant, venaient peu à peu s'aligner tout le long de la grande rue où les trottoirs étaient divisés en compartiments numérotés. Ainsi, chaque femme a sa place, qu'elle loue à l'année. Il faut bien qu'on vienne d'en haut, parce qu'en bas nous n'avons rien. Les femmes vous soupesaient ces aubergines à la peau tellement lisse que c'est comme s'il y avait eu du papier d'argent collé dessus. Les marchandages commençaient, et dès les 8 heures du matin, la rue se remplissait d'un bruit de voix, pareil au claquement de l'eau contre les palettes d'une roue de moulin. Mais vers les 11 heures, d'ordinaire, tout est fini. Rien qu'un jour d'animation par semaine, et encore pas un jour entier, même pas un matin entier. Puis on se rassied au silence. C'est ce silence des petites villes, dont les choses, comme les gens, ont tellement pris l'habitude qu'elles ne pourraient plus s'en passer. Les maisons se repelotonnaient sous leurs toits comme des vieilles dans leurs châles. Les trois pigeons, dont l'un était peint en rouge et jaune, se dépêchaient de revenir piquer entre les pavés et les débris. Les vendeuses elles-mêmes semblaient pressées de s'en retourner chez elles, comme si elles sentaient qu'elles étaient de trop ici. Vite, elles allaient faire leur commission, tandis que les hommes buvaient un verre. Puis tout se trouvait de nouveau désert, vide la rue, vide le ciel, et peut-être les têtes aussi, mais ça n'est pas pour leur déplaire. On dit les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'il y eut donc ce premier mercredi et les mercredis qui suivirent? Personne ne semblait songer à repartir. Plus on allait vers midi, plus l'affluence au contraire devenait grande. À midi, la cloche de l'hôtel de ville sonna, à peine si on en reconnaissait le son. Une nouvelle couleur était venue aux choses, un nouvel aspect leur venait. Il a semblé qu'elle commençait seulement à exister. Ainsi, cette sonnerie de la cloche, beaucoup ne l'avaient, pour ainsi dire, jamais entendue. Tout à coup, « Tiens, c'est vrai, on sonne à midi. » Et on a entendu sonner la cloche, en même temps qu'on entendait. Il avait reçu la charge en pleine figure, il avait les deux yeux brûlés jusqu'au fin fond. Ça n'a pourtant pas empêché. Une voix. « Qu'est-ce que vous me chantez, là ?» Mais une vieille, un peu plus loin, qui écoutait. « Mon Dieu, si seulement c'était vrai, on en aurait tellement besoin. » Les larmes lui étaient venues aux yeux. Elle avait une toute petite figure sous un bonnet noir à ruche. On criait de nouveau. « Il n'y a pas seulement l'aveugle qu'elle a guéri, il y a aussi un petit enfant. » « Qu'est-ce qu'il avait ?»« Il avait tout. » Alors la vieille a levé ses deux mains. Ses yeux étaient devenus secs, elle les a ouverts tout grands. Les rides, en se rapprochant sur son front, étaient comme des lignes sur une page de cahier. Pour la première fois, on se mettait à vivre. Devant l'auberge de l'hôtel de ville, où les hommes trinquaient, tandis que les chevaux, tout attelés, mangeaient l'avoine, il y avait beaucoup de femmes, bien que ce fût l'heure du dîner. Des enfants aussi étaient là, même des tout-petits, qui s'impatientaient, pendus après les jupes de leur mère, et les plus grands, pas surveillés, au risque de se casser la tête, faisaient la pièce droite autour des barres de bois. Entre les têtes de chevaux, deux pieds sont apparus, disparaissent. Et il se trouvait que ce n'était pas, comme on aurait pu croire, dans la grande rue seulement que ce mouvement se faisait sentir, mais à présent dans toute la ville. L'affluence était d'abord portée dans la grande rue, où brille en haut de la tourelle un beau cadran bleu à aiguilles d'or, mais il y avait eu ensuite reflux, remontée. Et les autres petites rues étaient également remplies et également s'agitaient, et plus que toutes, celle où était la maison de grain. Là, sur le pas de la porte, était assise la brûlée. On lui avait dit « Vous ne montez pas ?» Elle avait secoué la tête. Des gens, arrêtés sur l'autre trottoir, regardaient vers cette fenêtre du second étage qui restait fermée. Plusieurs femmes discutaient chez la marchande de sel. C'est le quartier des petites gens, celui-ci, et des pauvres gens, après cette grande rue qui est la rue des riches. Et là-bas, on riait encore, mais ici, on ne riait plus. Ici, parmi l'inquiétude, c'était bien quelque chose comme un commencement de bonheur, un commencement d'espérance. « Car, disait-on, si ça continue comme ça... » La balance heurtait d'un de ses plateaux le comptoir. « C'est bon poids. »« Tout le monde sera guéri. »« Mon Dieu, si on pouvait y croire, ce serait trop beau. »« Quand il n'y aurait plus toutes ces maladies, celles du cœur, celles du corps, peut-on seulement se représenter ?» Et les femmes hésitaient encore, mais on a crié de nouveau « Vous savez que c'est vrai, l'aveugle voit. Vous savez que c'est vrai, le petit enfant ne pleure plus. Mon Dieu! Alors, espérez, espérez quand même. Et puis, Voilà le sel mis dans le sac. Espérez. Et elle sortait. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tiens, c'est Jeanne Cavin et Mélanie Roy. Elles lèvent les bras. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'il paraît qu'à présent c'est elle qui est aveugle. Cette nouvelle vint encore et on demandait « À cause de quoi ?» Mais Jeanne Cavin et Mélanie Roy « À cause de ce vieux qui est venu. Et quand il est venu, c'est lui qui n'y voyait plus. Quand il est reparti, c'est elle. » « Mon Dieu !» Seulement, il était tellement content, il disait « Comme tout est beau, comme le soleil est beau, même les femmes qui sont belles, et pourtant à mon âge !» Et alors il riait, et il n'a pas voulu que ceux qui l'avaient amené l'accompagnent au retour, parce qu'il a dit « Il s'agit que tout le monde se rende compte que je me conduise à présent tout seul. » Et elle, est-ce qu'elle a su ce qui lui arriverait si elle le guérissait? Bien sûr. À l'avance? À l'avance. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été encore plus contente que lui. Elle a dit « C'est en dedans qu'on voit. » Elle disait, elle aussi, « Comme tout est beau. » Ainsi, ils ont dit tous les deux la même chose. L'une parce qu'elle n'y voyait plus, l'autre parce qu'il y voyait de nouveau. Plus elle prend de maladies, mieux elle semble se porter. On a dit « Comment dites-vous ? » Alors elles se sont mises à expliquer à leur façon ces choses, et c'était bien un peu embrouillé. Pourtant, on sentait qu'elles disaient vrai, qui sortait d'ailleurs d'auprès de Marie, étant d'entre les plus fidèles, cette Jeanne Cavin, cette Mélanie Roy, lesquelles ont repris tout bas. « Et vous savez qu'à présent, elle est toute rongée et dévorée, avec une tache rouge qui lui est venue sur la joue droite ?» Et en même temps, elle est toujours plus belle, et son odeur est une bonne odeur. Les femmes ont dit « Une tache rouge sur la joue droite ?» Elles ne comprenaient pas. Elles ont alors levé les yeux, elles ont aperçu la brûlée, qui n'avait pas bougé de dessus son pas de porte, et personne ne lui parlait. Tout au plus si, de temps en temps, un homme de pas très bonne réputation, en passant près d'elle, faisait hâte, la regardant avec un drôle d'air. Mais elle ne bougeait toujours pas, les bras autour de ses genoux, le corps tout entier jeté en avant. Il fallut que les femmes s'approchassent, étant poussées par la curiosité. Il fallut qu'elles lui adressassent la parole. Alors la brûlée a bougé la tête. Tout aussitôt, il y eut un cri. « Elle n'a plus sa brûlure !»« Elle aussi, elle est guérie, et elle est belle maintenant !» Mais voilà pourquoi Marie avait cette tache rouge. Et la brûlée les regardait, qui ne méritait plus son nom, car il y eut encore celle-ci à ne plus mériter son nom, après l'aveugle et la paralysée. Pendant que Grain lui-même arrivait à présent, et une troupe de gamins le suivait. Il a crié. « Eh bien, est-ce que vous allez me croire ?» Nombreux furent ceux qui lui répondirent « On vous croit !» Il recommença. « Et à présent que les aveugles de chair voient, est-ce que les aveugles de cœur ne verront pas, eux aussi ?» Les mêmes qu'avant. « Ils finiront aussi par voir. » Telle fut encore leur réponse. Grain se tourna vers eux. « Alors venez avec moi, en témoignage de la vérité. » Jamais on n'aurait imaginé rien de pareil, surtout chez nous, où on est calme de nature. D'abord, ce fut la brûlée qui se leva et vint, puis Jeanne Cavin, puis Mélanie Roy. Il y eut d'abord surtout des femmes. Elles se donnaient le bras, sauf la brûlée qui marchait seule. Toujours ces gamins devant. Il y en avait un qui avait un tambour. Il se mit à battre son tambour. Eux ne songeaient guère qu'à s'amuser, comme il est compréhensible à leur âge. Mais les femmes, elles, avaient l'air graves et ne disaient rien, allant seulement. Grain se retournait par moments. « Encore une, ça va bien. » Il recommençait. « Tous ensemble. » Et maintenant, une quantité de gens accourus au bruit faisaient la haie de chaque côté de la rue. Personne parmi eux ne songea d'abord à protester, tellement la surprise avait été grande. Une envie seulement de se frotter les yeux, comme quand on n'est pas bien réveillé. Il a fallu pourtant qu'ils finissent par se rendre compte qu'ils ne rêvaient pas. Alors, plusieurs éclatèrent de rire, et beaucoup admiraient, et certains étaient effrayés. Les sentiments, longtemps tenus secrets, étaient forcés de venir au jour. On sentait que l'affaire n'était plus de se contenir. Tout allait éclater. L'un qui serre ses poings, les préparant déjà, l'autre qui ouvre une grande bouche. « Hé, le toquet, où vas-tu ? » Grain. « Où je vais ? Je ne sais pas. »«
C'est une honte pour la ville !»
Et quelqu'un.
« C'est la fin du monde !»
Mais tout aussitôt en réponse,
« C'est le commencement du monde !»
On applaudissait des fenêtres. Une petite fille, montée debout sur le rebord de l'une d'elles, détacha une fleur d'un des pots qui le garnissait et la jeta à Grain. C'était un œillet. Entre les toits, les gros nuages gris, paresseux, n'étaient aperçus de personne. Le grand vent du matin venait de tomber. Il faisait lourd, comme souvent avant la pluie. Les cris grandirent encore, on les entendait à présent jusqu'à l'autre bout de la ville. Là, il y avait Monsieur Guicherat dans son bureau. Monsieur Guicherat se leva. Il mit son chapeau de feutre dur, il pensait « Il faut que ça finisse ». C'est aussi ce que pensait Monsieur Boll et tous ceux qui vivaient dans les belles maisons du bord du lac. Parce que... quand on est bien, on n'aime pas à être dérangé. C'est dans ces maisons riches d'autour de la ville et du bord du lac, quelques-unes neuves, et où le grand ombrage doux des pavlovnias tombe sur les tables où on prend le thé. Justement, Madame Gachet prenait le sien avec une amie. Elle lui parlait de son chien qui avait disparu pendant 3 jours. Une bête si sédentaire! Mais une fois que dans un petit endroit comme le nôtre, ça se dérange, tout le monde a à en souffrir, jusqu'à ces pauvres animaux. L'ami hocha la tête. Madame Gachet lui remplit sa tasse. Et pendant ce temps, les deux demoiselles Chapuis, sur leur galerie à colonnettes, avançant la tête à travers la verdure tombante du jasmin, une fois de plus, si on y allait... Et elles avaient peur du moindre bruit. Pourtant, on les a vues qui accouraient, trottinant l'une derrière l'autre. Une foule entourait Grain, qui était montée sur un banc. Chapitre 12. Il était peut-être 1 heure. Il n'y avait à ce moment auprès de Marie que Madame de l'Église, parce que ce n'était pas tellement l'heure des visites. Madame Grain ne parlait plus à Madame de l'Église, ni d'ailleurs à aucune des personnes qui venaient. Les pauvres gens, même quand ils sont brouillés, sont bien forcés de continuer à vivre ensemble. Alors, comme on dit, ils s'arrangent. Ils sont muets quand il faut l'être, aveugles quand ils ne veulent pas voir. C'était un peu après-midi. Madame Grain venait de laver la tasse dans laquelle elle avait bu son café. Il pleuvignait, si on se souvient bien. Tout à coup, il lui a semblé qu'on heurtait. « Qu'on heurte seulement, » pensa-t-elle, « pour l'espèce de gens que c'est encore. » Et avec un mouvement bourru des épaules, elle se remit à son ouvrage. Mais voilà qu'on heurtait de nouveau. La porte s'entr'ouvrit. « Madame Grain ?» Elle fut étonnée. Ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Il y eut devant elle un petit vieillard, proprement mis, avec un veston de lasting, un col de chemise très blanc, une petite moustache grise, des joues soigneusement rasées. Elle reprit confiance. « C'est moi !» Le vieux poussa la porte tout à fait. Il dit « Ah, c'est vous, ça va bien !» Et elle, le regardant toujours, il lui semblait le reconnaître pour finir. Comme si elle l'avait déjà vu une fois, dans un bureau. Peut-être quand elle avait été payer ses impôts ou bien réclamer un papier. Cependant, il l'avait regardé attentivement, lui aussi. Il regarda ensuite autour de lui, puis baissant la voix,
« C'est de la part de monsieur le syndic, il voudrait vous parler. »
Est-ce qu'elle devina ?
On ne sait.
Elle dit,
« De la part de monsieur le syndic, quand est-ce qu'il faudra que j'aille ?»«
Tout de suite, si vous pouvez. »
Et elle parut réfléchir encore, puis,
« Je vais. »
Un jour, comme ça, qu'il pleuvignait au commencement de l'après-midi. Tout se passa très naturellement. À peine si, de la pièce à côté, madame de l'église entendit le bruit de la conversation. Entendit, un instant après, madame Grain qui sortait. Et déjà avait repris le chantonnement doux de la gouttière, qui devait être percée ou dessoudée. Alors il y avait le tic-tac d'une goutte tombant par intervalle sur quelque chose de sonore, probablement un arrosoir oublié dans le jardin. Tic-tac qui battait la mesure du temps, étant seul à se faire encore entendre dans le silence, avec un mouvement tantôt plus rapide, tantôt plus lent, selon qu'il pleuvait plus ou moins. Toute petite chose, n'est-ce pas ? Mais qui prenait une grande importance à cause du vide d'alentour. Cette goutte, en tombant, sonnait solennellement creux, et puis on guettait la venue de l'autre. Madame de l'église se tenait comme toujours au chevet du lit de Marie, plus immobile, semblait-il, et plus raide que le dossier de sa chaise. Et dans le lit, c'était la même immobilité, elle qui ne voyait plus, qui ne pouvait plus remuer, qui ne pouvait presque plus rien dire, plus ruinée et plus morte chaque jour d'être plus vivante, plus soustraite chaque jour en vue d'un autre langage à toute espèce de communication. Elle tenait ses mains croisées sur le drap. La goutte tombait toujours sur l'arrosoir. À un moment donné, un tonneau roula dans la rue. Le bruit vint par-dessus les toits, se rapprocha, grandit encore, puis a commencé lentement à décroître. Une mouche s'était posée sur la courte pointe, recouverte d'une étoffe de coton rouge qui imitait le satin. Elle frottait ses pattes l'une contre l'autre. On raconta plus tard que, peu après que madame Grain était sortie pour aller chez le syndic, on avait vu passer deux gendarmes. Devant chez Grain, ils s'étaient arrêtés, comme s'ils hésitaient à entrer dans la maison. Puis ils s'étaient remis en marche. Ils vont, comme on sait, au pas. Ils avaient leurs belles casquettes. Une demi-heure, peut-être, passe encore. Soudain, il est monté la rue. Il courait de toutes ses forces. En moins de rien, il fut en haut de l'escalier. Comme une fois déjà, un grand vent le poussait. Mais ce n'était plus le grand vent d'alors. Grain entra dans la chambre. Il marchait de travers. Il ne dit rien. Il marcha jusqu'au lit. Et il a regardé ce lit, comme pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. Puis il s'est laissé tomber en avant, la tête dans les couvertures. On crut d'abord qu'il n'avait pas d'autre intention. Il ne bougeait plus, en effet. Rien n'avait bougé dans la chambre. Il fut un peu comme l'oiseau qui a retrouvé son nid et s'y blottit dans l'épaisseur. Il fut là, d'abord, sans un mouvement. De nouveau, tout s'était tu. Et un peu de temps s'écoula avant qu'il levât la tête. Mais enfin, il la leva. Rien ne venait. Il attendit toujours. Il commença. « Marie !» Une nouvelle fois. « Marie !» Puis, comme on ne répondait pas, « Est-ce qu'elle va plus mal ?» C'est à madame de l'église qu'il s'adressait maintenant. Elle se contenta de lui faire signe de se taire. Alors, d'un mouvement brusque, il se mit debout. Il tendit le bras, il criait. « Ça ne fait rien !» « Ils ne mourront pas !» Il continuait. « Ils verront bien à qui ils ont affaire. S'ils viennent, je me défendrai. » Et il regardait cependant le mur, comme s'il parlait au mur. Puis il dit encore, « Il le faut bien, du moment qu'on ne veut pas m'écouter, du moment que personne ne s'occupe de moi. Personne, je dis bien, personne, même pas celle que j'aurais cru. » Et déjà une fois, si on se le rappelle, Des reproches de ce genre avaient été dans sa bouche, mais qui aurait pu croire que ce grain-là n'était pas mort? Or, voilà qu'il n'était pas mort. Il reparaissait même tout entier une fois encore. Il a continué. « Je m'entends. » Et tendant le poing de nouveau, « Mais j'ai ce qu'il faut pour les recevoir. » À ce moment, un petit bruit se fit entendre, comme quand un vent léger passe dans les branches, ou quand le lac, à peine agité, s'avance vers la rive avec des mots dits un à un. « Père, il faudra, quand même. » Et comme Grain s'était tourné vers le lit, « Pour que tout soit bien. » Un grand sourire était sur ce visage sans regard qui le cherchait. Et lui, dans sa nuit, fut cherché, mais il n'était plus qu'un pauvre homme. C'est pourquoi il se mit à secouer la tête, comme quelqu'un qui se refuse à croire à ce qu'il voit. « Marie, est-ce bien toi? Est-il possible que ce soit toi ?» Elle dit, « Oui, père, c'est moi. » Il dit, « Mais tu n'as pas compris. S'il m'emmène, je ne t'aurai plus. » Elle dit, « C'est alors que tu commenceras à m'avoir. » Il dit, « Tout sera fini. » Elle dit, « Tout recommencera. » À peine un souffle, cette voix. Et il y eut donc qu'il fut là. Il y eut qu'il prêtait l'oreille, doutant des sons qui lui venaient, à cause de son cœur obscurci. Il fut là qui réfléchissait, se demandant s'il avait bien compris, puis de nouveau il éclata. « Alors, toi aussi, toi aussi !» Comme en un temps lointain déjà, mais l'homme ne change jamais tellement qu'il ne se retrouve aux mauvaises heures. « Toi aussi, moi qui n'avais que toi !» Et elle, « Ce sera pour que tu m'aies toute !» Il allait répondre. À ce moment, il a entendu qu'on venait. Il courut se placer derrière la table, cherchant des yeux une arme dont s'emparer. N'ayant rien trouvé d'autre, il empoigna le dossier d'une chaise. Cependant, la porte s'était entr'ouverte. Une voix se mit à dire « Sûrement que c'est ici !» Et comme quand on récite une leçon, « J'ai tout fait, j'ai tout essayé, je lui ai mis des compresses, je lui ai acheté des bouteilles, il allait toujours moins bien. Mais à présent qu'on a pu venir... »« Oh oui !» dit une voix, et c'était une voix d'enfant. On vit entrer un vieux, et il poussait devant lui un enfant, qui était un pauvre petit enfant de 7 ou 8 ans, avec un grand cerne bleu sous les yeux. Mais... sitôt qu'il fut dans la chambre, toute sa figure a changé. Ainsi, il avait dit « Oh oui !» Et tout de suite, il avait connu de quel côté il devait se diriger. On vit le petit qui s'approchait, et avant même d'être arrivé près du lit, « Grand-père, je vais mieux !» Il riait. Le grand-père disait « Je savais bien !» Alors l'enfant fit encore un ou deux pas, et fut près du lit lui aussi. Grain, lui, regardait toujours. Et d'abord, il n'avait vu qu'une chose, à savoir que ceux qui étaient entrés n'étaient pas ceux qui l'attendaient. Mais maintenant, c'est autre chose qu'il devait voir, parce qu'il regardait autrement, et il s'était mis à trembler. Il tendait le cou, il tendit le haut de son corps, il avait lâché sa chaise. La voix du petit, à ce moment, se fit entendre de nouveau. Il disait « Grand-père, toi non plus, tu n'étais pas bien. Demande aussi d'être guéri. » Alors Grain eut un mouvement des épaules. Le jour qui entrait par la fenêtre fut obscurci parce qu'on passait devant. Puis on dut s'avancer encore, et le jour avait reparu. Mais à présent, c'est Grain qui avait disparu. Justement, les gendarmes arrivaient devant la maison. On leur avait dit « Méfiez-vous, il est dans un état terrible !» Ils avaient pris leurs précautions, mais ils étaient 4, et pensaient qu'à 4 contre 1, et armés, parce qu'ils avaient leurs revolvers, ils se tireraient toujours d'affaire. Ils n'en furent pas moins extrêmement prudents. Ils eurent soin de s'assurer d'abord que Grain n'était pas caché dans l'allée. puis ils montèrent l'escalier marche à marche. Mais rien pour eux non plus ne se passa comme ils l'avaient prévu. Ils virent que la porte était entr'ouverte, ils virent que le monde qu'il y avait là était du monde tranquille. Une vieille femme était assise sur une chaise, un vieil homme était debout à côté d'elle. Il y avait ce lit qui les gêna. Ils furent polis, on doit le dire. L'un d'eux porta la main à sa casquette. « Excusez, est-ce bien ici, chez Monsieur Grain ?» On n'eut pas l'air de le voir. Et ce fut seulement cette voix d'enfant, toute claire. « Grand-père, il y a un monsieur qui est entré. » Puis, « Grand-père, il y a deux monsieur. » Ils resaluèrent l'un et l'autre. Mais ce qui se passa ensuite fut plus inattendu encore, et c'est que Grain lui-même se montra tout à coup comme s'il sortait du plancher. On s'aperçut alors qu'il était resté tout ce temps agenouillé devant le lit. Les gendarmes firent un mouvement en arrière, puis un mouvement en avant, mais Grain, je viens. Et Grain, c'est qu'à présent, je peux venir, tout est en ordre.